Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 209. Nous sommes le 30 septembre 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à tous ceux qui me souhaitent une bonne fête. C'est effectivement la Saint-Jérôme. Saint-Jérôme qui est un vieillard qui a traduit la Bible en... non, j'ai pas le script sous les yeux. Il a traduit la Bible en grec et en latin, je crois. C'est pour ça qu'on... Après, je crois qu'il a été martyr, parce que tu peux pas être saint si t'as pas été bouffé soit par un lion, soit transpercé par des flèches, soit décapité, soit crucifié, soit... Je sais plus comment... Je sais plus quel a été son... Il est souvent représenté avec un lion. Est-ce qu'il serait pas fait bouffer par un lion? Ça, je sais pas. On s'en fout complètement. On est là pour parler de tech ce matin. Je sais pas si vous m'entendez. La chatroom est extrêmement silencieuse. Alors, soit il y a un gros pain technique et personne n'ose me le dire. Faites-moi un signe dans la chatroom. Ah, d'accord. Elle est bloquée sur mon ordinateur, la chatroom. Attendez, j'essaie de vous réactualiser sans tout péter. Ah, voilà. Voilà qui va mieux. Voilà, voilà. Il cherche juste Saint-Jérôme. si tout va bien. Bon, bah, trouvez-moi comment Saint-Jérôme est mort. J'ai oublié. Nickel le son, bon bah tout va bien. Aujourd'hui, donc dans les news tech, puisqu'on a une revue de presse de la tech, hein, ne l'oublions pas, eh bien nous allons, et pas un almanach des saints, nous allons parler de 5G. Est-ce que votre forfait mobile va vous coûter plus cher? Question angoissante. On va parler également de Google et de son acquisition de Fitbit, et comment ça se passe avec l'Union Européenne. On va parler d'Apple et de Scribble. Je vous ferai une petite démo justement. Même s'il n'est pas en français, je vous expliquerai. On va parler de Nikon. Nikon qui nous tease avec l'arrivée bientôt du Z6II et du Z7II. Comme nous, on utilise des Nikon, entre autres, à l'atelier, on pourra vous en parler et je ferai ma liste de doléances à Nikon. Nous parlerons également une petite brève sur Cyberpunk 2077. Et nous aurons ensuite, non pas une tartine, mais une cerise sur le croissant. Je vais vous parler de chaussures virtuelles. Je vous en dis pas plus, c'est un petit peu le teaser. Et bien sûr, on terminera avec les facs aujourd'hui. Marion devait présenter ce matin, mais elle ne peut pas. Elle vous fait la bise et elle s'excuse auprès de vous. Elle a beaucoup, beaucoup de travail en ce moment, son autre boulot. Elle reviendra le plus vite possible, peut-être mercredi prochain. Donc, un jour de plus avec moi. Ne pleurez pas trop vite. On commence par le Kawa. Le Kawa, ce matin, alors je regarde vite si quelqu'un a trouvé la mort de Saint-Jérôme, parce que quand même, personne n'a trouvé, vous êtes vraiment des flemmards, hein. Personne n'a trouvé comment est mort Saint-Jérôme. Bon, eh ben tant pis pour vous. On va commencer, on va parler effectivement de la 5G. Hier, je vous disais que les enchères de la 5G, le coût d'envoi était donné. On va pas revenir sur la polémique de la 5G, on en a parlé hier. On va parler plutôt ce matin, est-ce que du coup, votre forfait mobile va vous coûter plus cher avec la 5G? Et exception française, pour une fois bénéfique, la France pourrait bien tenir son rang de pays où le mobile est le moins cher. On râle beaucoup hein, qu'on est en France et tout. On a une chance, c'est que... Et d'ailleurs, on peut remercier Free au passage hein, pour cette situation. La France est un des pays où les forfaits mobiles sont les moins chers. C'est extrêmement cher dans d'autres pays, avant de toujours pleurer sur les prix en France par rapport aux États-Unis. Allez voir le prix des forfaits aux États-Unis. États-Unis, même en Suisse ou dans d'autres pays, on a plutôt de la chance en France au niveau effectivement de... alors on me dit Saint-Jérôme, il est mort le 30 septembre 420. Oui d'accord, mais il est mort de quoi? Ah, de vieillesse. Ah ouais, donc c'est un saint cool quoi. Il a juste traduit la Bible et hop, il est mort de son vieil âge. Eh ben écoute, tant mieux pour lui. J'aimerais bien savoir pourquoi on le représente toujours. Il faudrait que je me renseigne sur Saint-Jérôme. Bref, on continue sur la 5G. Je me disperse dès le matin, c'est pas un bon signe. Bref, en France, c'est vrai qu'on a des forfaits pas chers. Et surtout, le processus d'enchère en France a justement été très encadré par l'ARCEP, le gendarme des télécoms, pour deux raisons. D'abord, ça va coûter cher aux opérateurs, effectivement, ces enchères autour de la 5G. Et l'ARCEP ne veut pas que, à cause de l'investissement dans la 5G, les opérateurs français se dédouanent de leur licence d'obligation de couverture, puisque l'ARCEP a une chose très importante pour eux, c'est qu'on continue à couvrir les zones blanches. Et ils veulent s'assurer que la 5G ne soit pas l'apanage que des grandes villes. Donc l'idée, en limitant les enchères, n'est pas de faire rentrer moins d'argent dans les caisses de l'État, mais plutôt que les investissements nécessaires pour les opérateurs ne les empêchent pas de remplir leur mission, à laquelle ils s'engagent auprès de l'État, de couvrir les zones blanches et d'étendre la 5G au maximum. Donc en ça, c'est plutôt une bonne idée d'avoir encadré les enchères, parce que, et c'est ça le deuxième point, bien évidemment, si les enchères, comme ça s'est passé en Italie, deviennent complètement débridées, les opérateurs vont se ruiner, ou en tout cas dépenser tellement d'argent que forcément, on le retrouverait dans nos factures derrière. Et c'est ce qu'on veut éviter. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut voir comment ça se passe dans les autres pays. En Suisse, l'expérience n'est pas très probante. À part la Suisse, où les opérateurs ont traité le nouveau réseau comme un produit de luxe, aux États-Unis et en Corée, la surprime de la 5G est restée très mesurée. À Séoul, c'est quelques won supplémentaires demandés par les nouveaux forfaits et se voient à peine en bas de la facture. Les opérateurs américains restant, quant à eux, dans un mouvement d'hésitation. Verizon, un des premiers opérateurs du pays, avait commencé par ajouter une dizaine de dollars pour avoir la 5G et est revenu sur sa décision. Donc, pour l'instant, les opérateurs, à part en Suisse, où effectivement, c'est un peu un réseau, les Suisses qui sont dans le chat, peuvent effectivement me le confirmer. Donc la Suisse, où le réseau 5G est plus cher, dans les autres pays, c'est un peu mesuré. Pour une raison aussi, c'est que, en tout cas, cette première vague de 5G, on ne risque pas de voir des débits spectaculaires. On le sait, il y a plusieurs choses dans la 5G, on ne va pas rentrer dans le millimétrique, etc. Mais un des premiers intérêts de la 5G ne va pas être tellement d'accélérer votre connexion, mais plutôt d'éviter des engorgements de connexion qui réduisaient la 4G. C'est-à-dire que la 4G, on partageait plus, ça vous est peut-être déjà arrivé dans un salon, à la Comic-Con ou ce genre de choses, la 4G est saturée et tout devient lent, et d'ailleurs, vaut mieux switcher sur la 3G à ce moment-là, manuellement. La 5G va permettre d'éviter ça et vous permettre plus un débit garanti. Et ça va être le premier intérêt, effectivement, de la 5G pour nous, utilisateurs, avant même de parler de débit supérieur ou ce genre de choses. Et c'est vrai que, quand on y réfléchit, est-ce que c'est pas ça? Aujourd'hui, la 4G suffit à énormément de nos usages, sauf quand elle se met à ralentir. Donc, j'avoue que ça serait un intérêt, pour moi, en tout cas, majeur de la 5G en tant qu'utilisateur, c'est presque de me garantir, effectivement, une qualité de service, entre guillemets. Les salons, ah oui, les trucs qu'on faisait dans le temps, oui, tout à fait. Oh, il y en a qui continuent à les faire, hein. Bon, après, on voit dans les chiffres des malades du Covid, mais bon. En fait, il faut le savoir, Y a déjà des forfaits 5G chez nous. Et ça, d'ailleurs, l'article de LCI fait une petite pub à Bouygues Télécom. N'oublions pas que Bouygues Télécom... Mais ils le signalent. Donc, ils sont honnêtes. Ils disent Bouygues Télécom et le groupe TF1, dont fait partie LCI, partagent le même actionnaire principal. Mais bon, ils font une petite pub à Bouygues Télécom qui propose déjà, effectivement, des forfaits compatibles 5G qui permettront l'accès au nouveau réseau quand il sera disponible, à condition, évidemment, d'avoir un smartphone compatible. Après 12 mois de tarifs promotionnels, il faudra compter 31 € par mois pour 50 gigas de données et 22 € pour 80 gigas. Donc ça sera chez France Télécom. D'après les rumeurs, chez Orange, ils préparent une grille tarifaire à peu près comparable, entre 40 et 65 € par mois, à 70 € pour 150 gigas de données en 5G, avec même un forfait illimité à 95 €. C'est les prix Orange, hein. Des tarifs de forfait premium assez habituels qui varient assez peu par rapport à l'existant et surtout ne préfigurent pas forcément la bataille commerciale à venir. On se doute bien que Free va jeter son pavé dans la mare, comme d'habitude. Et c'est vrai que c'est là où la France a aussi un statut d'exception, puisque en France, tous les grands opérateurs historiques ont également une offre low cost. On a Sosh pour Orange, Red pour SFR, BNU pour Bouygues Télécom. Tout ça pour lutter contre l'offre Free. J'ai dit France Télécom, pardon. J'ai lapsusé, ouais. Bouygues Télécom. Tant que je dis pas les PTT, vous avez pas le droit de me traiter de boomer. Voilà, hein. Vous avez votre forfait PPTT. Je suis sûr que certains d'entre vous ne savent même pas ce que c'est que les PTT. Vous n'avez pas connu. Je crois pas que j'ai connu. Est-ce que j'ai connu, moi? Bon, je sais pas. On s'en fout. Donc, à voir. La bataille tarifaire sur des forfaits low cost 5G devrait arriver là aussi où on va dire, dans tout mal, il y a un bien. Le retard français sur la 5G a un certain avantage. C'est que aujourd'hui commence déjà à sortir des smartphones compatibles 5G à des prix plus doux qu'il y a un an. C'est vrai qu'il y a un an, les premiers smartphones compatibles 5G, c'était vraiment les haut de gamme. Là, on l'a vu, je pense au OnePlus Nord ou à d'autres, chez d'autres grands constructeurs chinois, on voit des smartphones 5G sous la barre des 400 €. Alors, ils offriront peut-être pas la 5G millimétrique, qui est un autre standard de la 5G, mais ça vous permettra déjà de prendre un forfait 5G, quoi. Si tu as dû connaître les PTT, ça s'est arrêté quand les PTT? Ah, c'est fin 1991, ah oui, donc ah, ça me semblait beaucoup plus vieux que ça, quoi. Beaucoup plus vieux que ça, les PTT. Voilà, donc on verra bien, mais a priori, ça devrait pas tellement augmenter votre forfait, en tout cas en France, hein, je parle pour les francophones qui nous écoutent et qui habitent en France, ça devrait pas trop augmenter votre forfait mobile. On aura des testimoniales de nos amis belges, québécois, suisses, Afrique du Nord, etc. pour savoir la 5G chez eux, si ça engendre effectivement des surcoûts de forfait. Bref, on continue et on va parler de Google. Google, vous le savez, il propose des montres connectées depuis longtemps, avec un succès assez mitigé par rapport à l'Apple Watch, on va le dire, hein. Wear OS, même s'il y a eu des bonnes initiatives, moi j'en avais testé une il y a très très longtemps. C'est vrai que je me dis chaque année il faudrait que je teste. J'ai testé quand même des montres sous Wear OS, mais généralement j'étais vraiment pas content de mes premières minutes de test et du coup j'ai décidé de pas faire les tests sur la chaîne parce que j'aime pas tester un produit juste pour dire du mal d'un produit. Et j'avais pas tellement de bien à dire ce que j'avais à tester sous Wear OS. Bref, ce qui était anciennement d'ailleurs Android Wear. Mais Google ne jette pas l'éponge sur les montres connectées et ils ont annoncé en 2019 l'acquisition de la société Fitbit. Mais c'est pas encore fait. Pourquoi? Parce qu'ils attendent le feu vert des régulateurs des marchés et notamment la Commission européenne. Et d'après certaines sources, la Commission européenne serait prête à dire OK à Google pour le rachat de Fitbit contre des garanties et notamment sur les données et qu'est-ce que Google va faire de ces données collectées. Google a dit que les montres ne l'intéressaient pas pour vendre de l'espace publicitaire avec les données collectées. Je suis désolé, je parle beaucoup de toi en ce moment le matin, donc je vais te réveiller souvent. Elle m'écoute, hein. Oh la vache, qu'est-ce que je suis écouté. Moi, je trouve ça très intéressant parce que sans vous spoiler une vidéo que je suis en train d'écrire, une des conclusions que j'avais sur le futur de l'Apple Watch, c'est que j'aimerais que l'Apple Watch devienne plus proactive, qu'elle traite mieux mes données. Mais pour ça, j'ai besoin de plus en plus de garanties de la part d'Apple de la protection de ma vie privée au niveau de l'Apple Watch. Et je dirais la même chose pour Google et Fitbit. Moi, je les accueillerais avec plaisir. Mais c'est vrai. Alors, la collecte de données, c'est indispensable. Surtout une montre connectée ou un smartphone ne peut pas fonctionner sans collecte de données. Mais Guillaume vous l'a bien expliqué dans notre vidéo, faut-il faire confiance à Google? Et je vous l'avais expliqué dans la vidéo, faut-il faire confiance à Apple? Le problème n'est pas tant la collecte de données. C'est d'abord, un, comment elles sont stockées, sécurisées, etc. Ça, c'est vrai. Où est-ce qu'elles sont collectées? Serveur, où est-ce qu'il y a une partie sur votre device? Et surtout, est-ce que cette collecte de données va servir à vendre de l'espace publicitaire ciblé? C'est ça le vrai marché de la data publicitaire où Facebook, Google et d'autres sont. Là où Apple n'est pas, c'est finalement l'utilisation de ce data pour vendre de l'espace publicitaire ciblé. Google dit qu'avec les Fitbit, il ne fera pas ça. J'ai besoin personnellement de sérieuses garanties. Voilà. Pourquoi garder Google Home pendant le mug? En fait, ça me fait beaucoup rire, Technique Savoir, et ça vous donne des petits frissons dans le dos de voir soit ma Siri qui se déclenche ou pas.
Il n'y a personne dans vos contacts qui corresponde à ce nom.
C'est toi, Siri. Et l'autre qui se déclenche. Ça me fait rire. En fait, pour l'instant, je me sers de mes assistantes personnelles que pour le ressort comique. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Donc, à voir effectivement comment Google peut assurer à la Commission européenne, à l'Europe, qu'ils garderont. Et c'est vrai que c'est d'autant plus sensible que ces montres connectées, il y a quand même, voilà, du data santé. Et le data santé, s'il y a un des data plus importants que la dick pic, c'est le data santé. Vous me suivez jusque-là. Ouais, tu marches dans un magasin avec ta montre et pouf, tu rentres chez toi, t'as des pubs ciblées sur tes recherches. En fait, il y a ça, mais tout objet connecté qui a des informations et tout objet connecté a des informations sur toi. C'est normal parce qu'ils en ont besoin de ces infos pour fonctionner. Comment, par exemple, veux-tu que Maps fonctionne s'il ne te localise pas? En fait, souvent, vous vous trompez en disant « ils vendent nos données ». Non, ils vendent pas nos données, Google, Facebook et tout ça. C'est pas ça qu'ils vendent. Grâce à nos données, ils extrapolent, là encore, hein, je vous encourage à regarder le documentaire « Derrière un écran de fumée sur Netflix. Ils vendent du profiling publicitaire, de l'anticipation de nos faits et gestes, des modèles, vous verrez, c'est très bien expliqué dans le documentaire, des probabilités de ce qu'on va faire qui permettent au marché publicitaire d'être extrêmement efficace. C'est ça que vendent vraiment. Le problème n'est pas tant la collecte de données, même s'il y a quand même des problèmes dans la collecte de données sur le stockage de ces données, mais ce que vendent c'est Google, Facebook, c'est pas nos données, je le rappelle, et il faut que ça rentre. Bref, ça aurait pu être drôle, Maps sans ta position GPS, genre c'est là, tu te débrouilles pour y aller, tu sais, comme les cartes à l'entrée des parcs où il n'y a même pas un vous êtes ici. Tout est indiqué, sauf l'endroit où est la carte. Ce qui ne te sert à rien, en fait. Tout à fait. Allez, on continue parce que je suis un petit peu en retard sur mon planning, mais on continue. On va parler de Scribble et il va falloir que je vous fasse une démo, mais on va parler effectivement de Scribble qui a été montré à la présentation d'iPad OS 14, qui est finalement une nouvelle utilisation du stylet sur les tablettes Apple, qui va vous permettre en gros finalement de beaucoup plus tenir votre pencil en main. L'idée pour Apple, c'est que, et à raison, ils ont trouvé qu'on n'utilisait pas assez le pencil, qu'on l'utilisait pour faire des croquis, pour faire de la prise de notes, mais que chaque fois qu'on voulait chercher quelque chose ou utiliser un navigateur, bah on revenait à un clavier, soit virtuel, soit physique, pour taper du texte éditable. D'où l'idée d'Apple. Et c'est pas une idée nouvelle. D'autres l'ont fait avant sur iPad. Je vous ai souvent parlé de la prise de notes. Il y a une société nantaise d'ailleurs, avec GoodNote et Notability, avec la société nantaise MyScript, qui sont très très avancées sur la reconnaissance de caractères. Le problème, c'est que c'est pas directement implémenté dans le système, donc ça se limitait à certaines applications. Merci beaucoup Julien pour ton sub, 3e mois d'abonnement, un grand merci à toi. Et donc, trêve de bavardage. Je vais vous faire une démo et je vais vous faire comprendre le problème qu'on a pour l'instant en France avec Scribble. Il faut savoir, et je le dis parce que beaucoup m'ont demandé comment on active Scribble en France. Par défaut, Scribble n'est pas activé sur les iPads en France parce que pour l'instant, la langue française n'est pas implémentée. Mais si vous voulez quand même l'avoir sur votre iPad, c'est assez facile. Vous passez très rapidement votre iPad en langue anglaise, en anglais, et après vous remettez le français. Alors, vous activez l'anglais, ensuite vous activez Scribble et vous repassez en français. Je vais vous montrer si ça veut bien marcher. Je vais ouvrir Notes. Voilà. Hop, on va passer sur l'iPad. J'ouvre Notes. J'ai mon stylet en main. Je passe en mode stylet et je vais essayer d'écrire. Alors, j'ai une écriture de merde. Hein. J'ai une écriture, c'est pire qu'un médecin. Et on va essayer d'abord d'écrire en français. Vous allez voir ce que ça donne. Alors. Merde, je suis pas sur le bon stylet. Si. Oula, attendez, j'ai un petit problème, bien sûr. Voilà, aussi. Test d'écriture. Ouais. En français. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mon écriture la plus forte. Donc, vous avez vu, on a quand même un problème. C'est rapide. Il y a juste à installer le clavier US. D'accord, merci Grol qui nous donne une autre astuce. Juste installer le clavier US, pas besoin de passer l'iPad en anglais complètement pour activer Scribble. Merci. Mais vous voyez que la transcription ne marche pas très bien en français. On va essayer... Oula, oui, j'ai fait des tests ce matin. On va essayer avec une écriture plus en majuscule. Test... d'écriture. Oh là là. Ouais, il a du mal. Test d'écriture en français. J'ai l'impression de faire ma dictée. Ouais, il est dans les choux. Il est dans les choux. Donc, vous voyez, la reconnaissance, on va dire, est rapide, mais absolument pas efficace en français. Donc là, vous dites, c'est de la merde. Vous n'avez pas tort, pour le français, ça ne marche pas. Je vais vous montrer quand même une autre chose. Si on prend un autre stylet, vous voyez, il y avait un A sur ce premier stylet. Je prends un autre stylet, je vais vous montrer un autre truc que vous pouvez faire, effectivement, avec le stylet. C'est que si j'écris simplement « test », d'écriture. C'est marrant, j'ai une... Merde. Bon, attendez, je recommence. Je fais trop de choses en même temps. C'est marrant, j'ai un problème de reconnaissance de paume ce matin que j'ai pas d'habitude. Bon, ça doit être l'effet Bonaldi. Je le refais. J'écris test d'écriture. Sans la reconnaissance, puisque j'utilise un autre ciel. J'ai vraiment des problèmes de rejection de la... de rejet de la paume ce matin, c'est bizarre. Ok, là j'ai écrit test d'écriture. Maintenant, vous voyez, avec la technologie, je peux sélectionner ce que j'ai écrit et je peux lui dire copier en tant que texte et on va voir ce que ça nous donne. Je colle en tant que texte et ça marche pas très très bien non plus. Mais ça montre le futur de ce que ça marchera. Maintenant, je vais vous faire la même chose en anglais en faisant même des fautes. Alors, hop, je vais faire un nouveau truc. Je me mets là. Alors, je vais écrire... Merde. Attendez, il faut que je prenne le bon stylet. Je recommence. Tout marchait bien ce matin. Alors. Mais non ! Voilà. Test in English. J'ai fait des fautes. Et ça n'a pas marché. Je recommence. Test in English. En faisant une faute. Et bien, il m'a fait test in English. Bon, par contre, il m'a corrigé ma faute in English. Bon. Il faut un petit temps d'apprentissage pour qu'ils reconnaissent. Là, vous avez vu, j'ai vraiment écrit avec une écriture de merde. Ça fonctionne bien avec des mots sans accent et les caractères spéciaux utilisés en français comme les CDI et autres accents circonflexes. Donc, en fait, tout ça pour dire. Tout ça est basé, effectivement, sur l'intelligence artificielle. Donc, il va falloir quand même que vous fassiez un nombre de prises de notes, ce que j'ai pas encore fait, pour que ça fonctionne bien. Pour l'instant, si vous voulez vraiment tester... Scribble, il faut plutôt écrire. Putain, mais pourquoi il me fait. Voilà, ben, j'y suis arrivé. Test in English. Il faut plutôt écrire en anglais. Ou alors, comme effectivement on nous dit dans la chatroom, il faut plutôt écrire en français, mais sans les accents et peut-être avec une écriture un petit peu plus lisible. En faisant même des fautes, ça veut dire que Jérôme va faire des erreurs sans le faire exprès, mais s'il y en a, c'était prévu. Tout à fait. C'est sûr que si tu écris comme un médecin, Scribble va pas retranscrire ton écriture. Non, mais c'est clair. Là, pour moi, la démo, elle est quand même bonne. Surtout, ce qui est, je trouve, assez impressionnant pour avoir testé d'autres trucs d'écriture, c'est la vitesse de transcription. La vitesse est quand même assez rapide. Je ne vois qu'une interface de tablette avec un fond de tablette noire et c'est tout. Aucune typo ou que ce soit, c'est buggé. Vous voyez pas ce que je suis en train de faire à l'écran? Si je refais en français, test d'écriture. Vous voyez pas ce que... Si, si, vous avez vu, d'accord. Ok, bon alors c'est chez vous, vous devez pas être sur le bon format d'écran. Bref, pas encore concluant, prometteur, pour vous dire effectivement, moi qui ai beaucoup utilisé ce que fait MyScript, cette société nantaise, ils sont largement supérieurs sur la reconnaissance de caractères français. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire de la prise de notes avec une retranscription en éditable, je vous conseille plutôt leurs applications. Je répète, la société, c'est MyScript. Mais c'est vrai que c'est un pas en avant assez intéressant parce que là, je vous l'ai montré sous note. Mais ça veut dire que n'importe quel champ de saisie sur l'iPad, vous pourrez écrire au stylet dedans. Mais effectivement, MyScript Nebu est vraiment super. Hein. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment avoir une expérience satisfaisante d'écriture manuscrite, MyScript garde son avantage. Mais c'est limité à une application. Là où Apple veut amener l'iPad, c'est effectivement une retranscription. N'importe où dans l'interface, vous pourrez écrire manuellement. Forcément, le cas d'utilisation, c'est la prise de notes. Tu vas pas écrire tes mails avec cette techno non plus. Non, mais clairement. Mais moi, je sais que, par exemple, en réunion, ce que je vous ai pas montré aussi, hein, ben, ça... Attendez. Yep. Je vais le remontrer dans une nouvelle note. C'est que effectivement, il va. Si vous faites des schémas, ah mais merde, je suis en mode édition texte. Si je fais un triangle, normalement, il va me l'arranger. Sauf qu'il faut que je le ferme. Je vous ai dit, hein, effet Bonaldi, hein, ce matin. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Mais je pense que c'est parce qu'il croit que je suis encore en mode reconnaissance texte. Hop. Normalement, il me fait un rond parfait. Pourquoi il n'y a rien qui marche ce matin? Bref, normalement, ça marche. Attendez, il faut que je retrouve parce que... Pourquoi ça marche pas, bordel de Dieu? Hop, pourtant, je suis bien en mode dessin. Dessin... Réduction auto. Ah, j'arrive pas à le faire fonctionner. Ah, mais il est que en mode... Attendez. Pourtant, je suis bien avec... Ouais, mais je suis bien avec le crayon, hein. Faut rester avec le crayon de papier. Ah, peut-être c'est le crayon de papier. Mais merde, j'y arrive plus. Bon, je vous referai une démo, hein. On va pas y passer tout le mug. Faut que je retrouve mes petits. Bref, je vous referai une démo, on fera une vidéo là-dessus. Ça améliore quoi versus le clavier et la vitesse? Alors, Ultralog, juste pour expliquer, pourquoi la prise de notes, elle est plus efficace? D'abord, écrire à la main, moi, personnellement, est quelque chose qui est plus connecté à mon cerveau que d'écrire au clavier. Je me trouve meilleur en écriture quand j'écris à la main, je trouve mes phrases plus belles que quand j'écris au clavier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand je suis en réunion, je déteste les gens qui tapotent sur leur clavier en réunion. Ça m'insupporte, ça fait généralement du bruit. Et sans être péjoratif du tout, on dirait des petits scripts dans la réunion. Ça fait, voilà. La prise de notes a quelque chose de non bloquant face à ton interlocuteur, c'est plus élégant. D'avoir un stylet à la main. La troisième chose, et c'est peut-être la plus importante à retenir. Moi, je sais pas à vous, mais moi, quand je prends des notes, il y a un mélange d'écriture et de schéma. Et ça, va le faire avec un clavier, de faire des schémas en même temps que tu prends tes notes, t'y arrives pas. Et je pense notamment à ceux qui sont étudiants, dans des matières où il y a beaucoup de schémas à faire, ils vont préférer une prise de notes manuelle, en fait. Tu dois rester appuyé juste après. Ah oui, c'est peut-être ça, attendez. Ah non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas chez moi? Ça m'énerve de faire des fausses démos. Attendez. On va y arriver ou pas? Ah, mais oui, vous avez raison. Putain, j'ai oublié. Ok, on la refait, démo réussie. Donc, je fais des schémas. Je fais un rond et en fait, il faut garder appuyé à la fin du rond et voilà, il me fait un rond parfait. Hop, je reste appuyé à la fin du carré, il me fait un carré parfait. Et là, vous voyez, je suis pas resté appuyé, mais maintenant, je refais mon triangle en restant appuyé et il me fait un triangle pas parfait, mais voilà. Voilà, donc ça marche. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien évidemment... Eh ben, on va faire la tête à Toto. Voilà, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Eh ben, il est super ce mug. Apple, ça bug jamais. Non, mais juste, c'est moi qui bug, c'est pas Apple. J'avais oublié qu'il fallait maintenir le stylo appuyé à la fin de ta forme. Et c'est très bien quand on y pense. Parce que si j'ai envie de faire un cercle biscornu, c'est ma liberté. Il faut que je reste appuyé pour que Apple fasse un cercle parfait. Voilà. Allez, on continue. On a perdu déjà beaucoup de temps sur cette news, mais c'était rigolo à faire. Même si, dans l'ensemble, c'est un gros fail. On va bien le dire. On continue et on va parler justement de Nikon. Nikon qui tease les hybrides Z6-2 et Z7-2. Alors vous le savez, hein, sur la chaîne, on a deux Z6 qui nous ont été prêtés par Nikon. On vous en a déjà parlé dans une vidéo, mais surtout on vous a montré ce qu'on pouvait faire avec les Nikon, parce que si vous regardez pas mal de nos vidéos, c'est vrai que ces derniers temps on l'écrit moins, mais dans beaucoup de nos vidéos d'il y a 2-3 mois, on a souvent écrit, alors pas tous, mais on vous écrivait quand on utilisait le Nikon, pour que vous voyez finalement ce que ça donnait. Un Nikon, c'était un peu notre démonstration auprès de Nikon avec le Z6. Comme j'avais dit, une image vaut 1000 mots. Et plutôt que de faire un énième test du Z6, on vous a plutôt montré dans un workflow à l'usage sur une chaîne YouTube ce qu'on arrivait à produire avec le Z6. Aujourd'hui, enfin plutôt hier, Nikon a plutôt discrètement commencé à faire un teaser avec un compte à rebours avec effectivement le Z7-2 et le Z6-2. On a juste le nom, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. On sait que ça va être dévoilé le 14 octobre 2020. Les rumeurs autour qu'il y a autour de ces boîtiers, c'est qu'ils seraient assez similaires au Z6 et au Z7. Il y aurait donc les mêmes capteurs et le même viseur, mais le processeur serait différent. On serait capable d'alimenter a priori ces deux boîtiers avec de l'USB-C. Ça, c'est vrai que c'était un des manques du Z6 pour nous. La rafale serait augmentée et de nouveaux formats vidéo seraient disponibles jusqu'à 60 images secondes. Donc un processeur un peu plus musclé. A priori, puisque ça c'était un des gros reproches, et je trouve qu'on l'a fait à tort au Z6 à sa sortie, il y aurait un double emplacement de cartes. On a beaucoup reproché au Z6 et au Z7 à leur sortie de n'avoir qu'un seul emplacement. À l'usage, et moi je vous donne mon ressenti, c'était un faux problème, parce que le format XQD est pour moi beaucoup plus fiable que les cartes SD. Je comprends que dans certaines situations, le double slot est important. Moi aussi, j'avais très peur d'avoir qu'un seul slot parce que c'est pas sécurisant. Mais les XQD sont plus des mini disques durs que des cartes SD. Et en ça, nous, on n'a jamais eu de problème de perte de données. Mais bon, on va dire que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle s'il y a un double slot. Après, moi, mon cahier de doléances. Alors voilà, je m'adresse à Nikon, si jamais Nikon nous écoute. Qu'est-ce que j'aimerais retrouver dans le 2 ou le 3? Parce que s'ils sont pas là, cette première... Voilà, j'aime beaucoup la monture Z. On vous l'a montré dans nos vidéos, les Nikon font de très belles images. Ils ont des possibilités, et ça, Albert, au salon de la photo, on a beaucoup parlé, des possibilités, notamment avec le RAW et tout ça, pour de la fiction, qui sont très intéressantes. Ils ont un prix aujourd'hui, les Z6, qui est très intéressant, donc ça serait évidemment intéressant de voir le prix des Z6-2 et des Z7-2. Est-ce qu'on va être dans la même gamme de prix? Est-ce qu'il y aura un programme d'update pour ceux qui ont acheté les Z6? J'en sais rien. Nous, je vais dire deux choses qu'on n'aime pas beaucoup sur les Z6, et qui nous pénalise un petit peu dans notre workflow, que j'aimerais voir améliorer. C'est ce que j'appelle les écrans flip-flop, un vrai écran réversible, comme on retrouve chez Panasonic et d'autres, parce que je sais que les photographes sont pas fans de cet écran réversible, mais pour les vidéastes, nous, on a beaucoup de mal à travailler sans. Et rajouter un écran externe, c'est chiant pour nous, et ça nous manque vraiment, cet écran réversible. C'est pas que pour le vlog. La deuxième chose, et ça j'en ai même parlé avec les gens de Nikon, nous on trouve que les préamps, nous notre prise son on l'a fait directement sur la caméra, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un enregistreur externe avec les vidéos qu'on fait. Ça serait un cauchemar et on perdrait probablement des voix si on devait recoller à chaque fois les voix aux images avec un enregistreur externe. Je comprends qu'en fiction, ça soit un faux problème. Mais pour nous, qui sommes plus sur un mode reportage, il est important que la prise de son se fasse direct sur le boîtier. Et on ne trouve pas que les préamps des Nikon Z6 sont à la hauteur des préamps qu'on a connus, par exemple, sur nos GH5. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la prise son, on continue à la faire sur des GH5 et pas sur les Nikon. Ça ne veut pas dire que la prise son, elle est mauvaise, mais on la trouve moins bonne que ce dont on était habitué avant. Donc on va pas revenir en arrière pour vous. C'est ça qui nous a, entre guillemets, empêché de passer tout notre workflow sur le Z6. On a continué à utiliser un mélange de Z6 et de GH5, notamment pour cette histoire de prise de son. Donc, j'aimerais vraiment que Nikon mette un meilleur pré-amp. Pour l'audiovisuel, n'oublions pas que l'audio est important. Donc, Nikon, si tu m'entends. Troisième peut-être doléance, j'ai trouvé que le comportement de la sortie HDMI des Z6... et on a vu mes déboires quand j'ai essayé d'utiliser le Z6 en sortie HDMI pour faire des lives. Il a un fonctionnement bizarre, cette sortie HDMI, que je suis jamais arrivé. Alors, ils ont sorti maintenant, que j'ai pas encore essayé, mais ils ont sorti un module qui permet de streamer directement avec le Z6 à partir d'un câble USB-C. Il faudra que je teste ça pour voir si on a toujours ces problèmes de synchro. Mais en tout cas, en sortie HDMI, je ne suis jamais arrivé à synchroniser ma fréquence d'image avec ma... c'est faux de dire la fréquence d'image du son, mais en tout cas à caler ma voix sur le mouvement de mes lèvres sur un montage de live, en fait. Donc voilà. C'est effectivement mes doléances pour cette version 2 ou des futurs Z, parce que bon, on va... Après, je le redis, mais c'est peut-être le truc le plus important à retenir pour vous, qui êtes toujours en train de vous demander quel boîtier je dois acheter. Les Z6 font une bien plus belle image que le GH5. Je le dis direct dans vos yeux. En termes d'objectifs, de capteurs, d'image, ça ne veut pas dire que le GH5 ne fait pas une belle image, mais les Z6 font une plus belle image. Mais il n'y a pas que la beauté des images qui est importante dans la production vidéo. Il y a comment ce boîtier s'inscrit dans votre workflow. C'est-à-dire que nous, les Z6, nous font perdre des secondes, des minutes à cause de choses qu'ils n'ont pas et que le GH5 a. Donc, pensez-y, si vraiment vous vous mettez à la vidéo professionnelle, la qualité d'image est une chose, mais ce n'est pas ce qui remplace tout. On peut avoir un appareil qui fait de bien plus belles images que d'autres, mais s'il ne vous correspond pas et qu'il ne correspond pas à votre workflow, ça va pas suffire, cette qualité d'image. Voilà. Enregistrement 422 10 bits sur la carte aussi. Oui, ça sera peut-être pas possible dans toutes les résolutions, mais déjà si on a un 420 10 bits, ça c'est pas mal. Non, il n'y a pas, en tout cas pas annoncé pour l'instant de Z8 pour les pros, hein, pour l'instant. Il faut comprendre aussi que Nikon, contrairement aux autres marques Canon, Sony, etc., n'ont pas de gamme de caméras pro. Donc, c'est un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est qu'ils mettront toujours le meilleur de ce qu'ils savent faire en vidéo dans leur boîtier photo, puisqu'ils n'ont pas peur de vampiriser une série de caméras au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Le désavantage, c'est qu'ils ont beaucoup de choses encore à apprendre en vidéo. Je pense Nikon, ils ont rattrapé énormément de retard avec ces Z6. Et ça, on peut vraiment les saluer au niveau vidéo. Au niveau photo, j'ai pas parlé du niveau photo, mais le Z6 et le Z7, alors là, la qualité d'image... Enfin, moi, en photo, c'est topissime pour moi. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. J'ai absolument aucun problème avec la photo. C'est les plus belles photos techniquement que j'ai pu faire avec un boîtier. Leur optique, je les trouve très bien. Ça manque peut-être, mais ils sont en train d'en sortir d'optique à très très grande ouverture. Mais franchement, j'étais bluffé par les qualités picturales, on va dire, du Z6. C'est vraiment sur la vidéo que j'ai quelques petits problèmes de workflow. Ouais, le rapport qualité-prix est très bon, hein. Par rapport, alors je sais, vous allez me parler du Sony S7, S3 ou du Canon R5. On parle pas du tout de la même gamme de prix, hein. Regardez les prix. On peut pas comparer ce qui est pas comparable entre un boîtier à 4 000 € et plus et un boîtier qui est entre 1 200 et 1 500 €. C'est pas, ça joue pas dans la même cour et c'est normal. Z50, Z5 aussi. Voilà, c'est bien que Nikon renforce cette gamme Z. Moi, je crois qu'ils ont leur chance de réussir. Il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, je dirais plus que les Z6 sont des très bons appareils photo avec des possibilités vidéo hyper intéressantes, notamment dans le très pro. Il y a encore un petit peu de boulot au niveau de l'ergonomie pour bien s'inscrire dans le workflow d'un youtubeur. Je parle pour moi, en fait, hein. Je parle pas pour tous les vidéastes. Je parle pour moi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a pas de Z50 Mark II d'annoncé. Je regarde un peu ce que vous dites. Oui, merci à Oleg hein, pour son guide de survie pour Twitch. Serait cool d'avoir un enregistrement. Ça, j'ai déjà lu. Bon, enfin bref, je referme la page, effectivement, de Nikon. Je vais faire vraiment une brève pour qu'on ait un petit peu de temps pour la cerise sur le croissant. Cyberpunk 2077, en fait, ils annoncent un crunch. Alors, un crunch, qu'est-ce que c'est? C'est une période avant la sortie d'un jeu où les développeurs, les graphistes, etc., toute l'équipe va devoir travailler d'arrache-pied. Et pourquoi on en parle? C'est que le studio CD Projekt Red avait promis qu'ils utilisaient, ils sont plutôt anti-crunch. On a beaucoup parlé des problèmes de crunch dans le jeu vidéo, avec des horaires de travail complètement déments, de la pression psychologique autour de ça. Mais là, a priori, pour pouvoir sortir Cyberpunk 2077 en novembre, comme c'est promis, le patron, qui pourtant avait eu tout un discours anti-crunch, eh ben, il dit, les gars, il va falloir faire un crunch. On vous demande de travailler un jour de plus par semaine, donc 6 jours, des semaines de 6 jours, pour qu'on puisse sortir le jeu à temps. Certains employés gueulent en disant, mais attends, on est déjà en crunch depuis un an, arrête de dire qu'on fait pas de crunch chez nous parce que c'est faux. Bref, il y a un vrai problème. Moi, là où je voulais juste appuyer sur ce point, est-ce que nous, public, on n'a pas une petite part de responsabilité? Dans le sens où quand un studio annonce la sortie d'un jeu avec une date, c'est peut-être une première erreur. Et que nous, alors on est très impatients de jouer au jeu, mais est-ce qu'on met pas une espèce de pression sur le marché aussi? Alors, bon, c'est normal, il y a d'autres jeux qui sortent, donc ils sont obligés de respecter des dates, il y a le marketing, mais est-ce que dans l'ensemble, on pourrait pas être un petit peu plus patient? Et est-ce qu'on pourrait pas même dire au studio, arrêtez de faire bosser vos mecs de manière inhumaine. Nous, on préfère qu'un jeu, il soit fini quand il est fini. Arrêtez de vous acharner sur des dates. Alors, on sait, la période de Noël est importante, etc. Et après, ça reporte. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire un petit peu pression aussi, nous joueurs, sur les studios de jeux vidéo, presque en boycottant les boîtes qui imposent le crunch, quoi. Ou en boycottant les jeux qui ont dû cruncher à la fin. Alors je sais, je parle dans le vent, on le fera pas, on a tous envie de jouer à Cyberpunk 77, et on s'en fout des conditions de travail des pauvres mecs derrière. Mais, je sais pas, je me demande s'il n'y a pas un label à avoir, Made with no crunch, ou quelque chose comme ça, quoi. Et d'une manière générale, est-ce que on n'est pas une société un petit peu trop impatiente? Moi, je le vois à mon petit niveau avec les vidéos qu'on fait sur YouTube. Parfois, vous êtes des sales gamins capricieux. Bah alors, elle arrive quand cette vidéo? Je me suis même fait engueuler par des gens. Mais t'avais promis que t'allais faire ça à tel moment. Pourquoi elle est pas là, la vidéo? D'abord, t'as envie de lui dire, t'as payé pour avoir cette vidéo? Non, alors, j'irai pas plus loin, mais c'est pas un reproche, parce que moi aussi, hein, parfois je trépigne, tous les matins d'ailleurs je trépigne, certains me le reprochent assez, mais on est impatient, on n'a plus envie d'attendre, on veut notre truc tout de suite, si on nous a promis quelque chose, c'est inscrit dans le marbre, ça doit arriver le lendemain, c'est peut-être un peu dommage, et c'est vrai que ça engendre des problèmes sociaux dans le monde du travail, sur les conditions de travail, qui sont peut-être à réfléchir. C'est déjà le deuxième report, ils n'auraient pas dû s'engager sur les premières dates. Oui, évidemment. On ne leur interdit pas de retarder. Oui, mais ça gueule, ça boycotte. Les réactions sont hyper agressives dès qu'il y a du retard dans la tech ou qu'il y a du retard sur un jeu vidéo. Soyons honnêtes, hein. Ça fait du bad buzz, quoi. Il n'y a personne qui dit « Oula, mais prenez votre temps, nous, on préfère un jeu bien fini, qualité, et que vous ne nous promettiez pas des dates, quoi. » C'est vrai qu'en étant impatient d'un jeu, on ne pense pas à l'humain derrière. Moi, je me rappelle de mes années World of Warcraft, où on était là, quand le patch n'arrivait pas à temps, les soirs de patch, où on gueulait « Ah ouais, c'est le stagiaire, il a dû tirer sur la prise, les serveurs sont toujours pas up, c'est un scandale, je me désabonne, ils sont nuls chez Blizzard, quelle bande de troufions, j'ai envie de jouer !» On pensait pas une seconde au mec derrière qui essayait de réparer le serveur ou de mettre la mise à jour. Et bien évidemment, s'ils allaient un peu trop vite et que ça plantait, mais vous, quelle bande d'incapables, ils auraient pas dû mettre la mise à jour aussi vite. Et ils savent même pas faire des contrôles qualité. Putain, ça fait 10 ans que ce jeu existe. Ils savent toujours pas le faire marcher. J'étais le premier à gueuler, hein. Je le fais bien, hein. Merci, Christoche, pour ton prime. Sa gueule bou... On peut prendre modèle, effectivement, sur Star Citizen, qui, depuis maintenant plus de 8 ans, est complètement imperméable à la pression du public. Tu disais vraiment troufion. Non, mais parfois, j'ai des vieux mots comme ça, qui des vieux mots surannés qui partent dans mes insultes. Eh, mais vous avez connu, quand même, les files d'attente de mise à jour sur les serveurs de MMO. Vous, vous avez connu ça. Et l'impatience qu'on avait. Mais genre, les drogués, quoi. Avec le Covid et le contexte actuel, on aurait pu comprendre, je pense. Ouais. Alors, je suis pas en train de dire que c'est nous qui sommes responsables de la situation, mais est-ce qu'on n'est pas un petit rouage dans ces problèmes ? Avec notre impatience. Oh, les gens sont pas virtuels dans un MMO, docteur. Voilà, je te conseille pour ta culture générale un jour de jouer à un MMO. Tu verras qu'on se fait des vrais amis qui sont pas du tout virtuels dans les MMO. Ça n'a rien de virtuel, le MMO. C'est même parfois beaucoup moins virtuel que d'autres jeux vidéo. Ouais, il y avait une expression pour les MMO, patch day, no play, tout à fait. Tu aimes troller. Bah écoute, fais-toi un t-shirt, j'aime troller. Allez, il est temps qu'on passe à la petite rubrique, j'ai quelque chose de super excitant à vous montrer. Oui, on va probablement terminer très en retard ce matin, mais on s'en fout. Les horaires de fin du mug sont entre 9h et 9h30. On se met pas la pression, on prend le temps qu'il faut pour partager nos passions et nos articles. On va passer à la cerise sur le croissant. Mais avant, petit rappel, n'oubliez pas qu'il y a un Shadow PC à gagner vendredi. Je ferai un tirage au sort vendredi. Pour jouer, eh ben, il faut que vous composiez un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner ce Shadow PC pendant un mois, sur quel jeu vous voulez le tester, quelle application. Mettez bien les hashtags Shadow PC et le mug Nowtech. Sinon, je ne vous trouve pas pour le tirage au sort du vendredi matin. Bonne chance à tous. Et on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, je vais vous parler de chaussures. Mais je ne vais pas vous parler de n'importe quelle chaussure, bien sûr. Je vais vous parler de chaussures qui vous promettent de belles promenades dans les univers virtuels. Alors, avant de vous les montrer, je fais monter un petit peu le... Est-ce qu'on peut encore dire faire monter la sauce, vu que maintenant la sauce, on l'utilise pour d'autres expressions ? L'Académie Twitter décidera. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures ? En fait, c'est des chaussures qui vont vous permettre de marcher sur place tout en reproduisant vos mouvements dans un univers virtuel. Comment ça marche ? En fait, c'est en fibre de carbone, c'est des plaques qu'on ajoute en bas des chaussures, et c'est deux plaques rotatives qui peuvent se tordre dans la direction qui est choisie par l'utilisateur. Une fois qu'il a posé son pied au sol, un système de roues ramène la jambe vers l'arrière pendant qu'il marche vers l'avant, ce qui donne cette sensation de moonwalk inversé et donc de rester quasiment au même endroit tout en marchant. En fait, c'est comme un tapis de marche, sauf que le tapis de marche serait sous vos chaussures. Et quand vous avancez, ça vous fait légèrement reculer. Et comme ça, vous restez à peu près à la même place quand vous faites un mouvement de marche. Pour éviter de glisser, parce que ça, vous êtes en train de dire « Ouais, c'est des patins à roulettes, on va se casser la gueule et tout. » Non, le système est hyper bien fait avec plein de micro-moteurs qui vont compenser vos mouvements. Et pour éviter de glisser, un système de freinage est intégré, ce qui prouve que la sécurité sera le problème essentiel de cet accessoire, bien évidemment. D'abord parce qu'il faut tout de même, je vous préviens, être dans une pièce qui est débarrassée de tous les meubles parce qu'on se déplace quand même. Simplement, on se déplace beaucoup moins que le mouvement qu'on fait. Vous allez voir, je vais vous passer une vidéo, vous allez mieux comprendre. Et effectivement, c'est quand même quelque chose qu'on rajoute sur ses chaussures, même si c'est en fibre de carbone, ça a un certain poids. Pour l'instant, tout ça, c'est du prototype. Mais regardez quand même les possibilités, imaginez les possibilités pour le jeu vidéo. Je vais vous passer la vidéo parce que, trêve de bavardage, vous allez comprendre un petit peu mieux. Attendez, on va regarder ça sur YouTube, ça sera mieux. Non, je ne veux pas me connecter. Merde, je peux pas. Je pensais que je pourrais agrandir. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez quand même. Donc ça, c'est le monsieur. Alors voilà. Pour l'instant, les prototypes sont plutôt faits pour des applications professionnelles. Et ils montrent effectivement, dans des installations industrielles, comment quelqu'un peut se déplacer dans un parcours virtuel et venir se placer devant les bonnes valves. Pour là, c'est un truc manifestement, c'est je sais pas du pétrole ou du gaz naturel, pour venir activer les bonnes valves au bon endroit. Donc une simulation pour pas qu'il fasse des erreurs sur le terrain. Donc vous voyez un petit peu le principe, c'est qu'en fait dès qu'il avance, la chaussure va le reculer un petit peu. Alors comme je vous ai dit, il faut quand même être dans une pièce parce qu'on avance quand même. Non, ça pèse pas 20 kilos par pied. Ce qu'ils disent, c'est que ça pèse pour l'instant pas plus lourd que des bottes de sécurité qu'on a sur les chantiers. En gros, c'est un peu l'équivalent, ils le disent dans la vidéo, d'une chaussure de ski légère. Donc, on n'y est pas encore, hein, au truc hyper léger avec lequel vous pouvez courir, etc. On est à un stade plus prototypal que quelque chose pour le grand public. Mais ils disent dans 2 à 4 ans qu'ils sont en train de travailler sur des technologies pour éventuellement apporter ça aux jeux vidéo. Effectivement, aujourd'hui, le prototype, probablement, moi, c'est ce que je me suis dit, il est obligé de marcher un petit peu les pieds écartés, un peu comme avec des chaussures de ski, hein, justement. On n'a pas un mouvement 100% naturel. Mais je trouve que la technologie est assez intéressante. Et si effectivement on a des micromoteurs assez performants pour compenser le mouvement de la marche en nous faisant rester sur place, tout en nous donnant l'illusion, et c'est ce qu'ils disent dans la vidéo, c'est que l'illusion, elle est parfaite. Alors c'est les inventeurs du truc, hein, ils vont pas nous dire « ouais, l'illusion, ça marche plus ou moins ». Mais on comprend comment ça pourrait compenser les mouvements. Effectivement, et ça donne une solution à une problématique qu'on a dans le jeu vidéo, c'est de se dire ouais c'est cool les masques d'immersion 3D virtuels, mais pour avancer ça reste le clavier. Et parfois d'ailleurs ça peut te donner un petit peu la nausée parce que tu n'avances pas naturellement dans le décor virtuel. Alors justement, je vais vous montrer, la vidéo est assez longue, mais si ça vous intéresse, il y a un grand Q&A où il répond à plein de questions. Et à la fin, il tease sur un petit truc que vous allez peut-être reconnaître. Voilà, c'est juste après ça. Il sourit un peu trop, le mec. Voilà, Half-Life Alyx. Ils n'ont pas pu s'empêcher quand même de tester leur prototype dans un jeu vidéo. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez en bas le mec, effectivement, qui bouge dans le décor. Alors, pour l'instant, ça simule pas la montée des marches. Hein. On n'y est pas encore. On en est loin. Alors non, justement, il gère le fait de reculer. Tu peux marcher à reculons, ça va compenser dans l'autre sens. En fait, la plaque, il y a deux, il y a plein de petites micro-roulettes dessous qui vont compenser tous les mouvements que tu fais, pas d'une manière d'ailleurs à te faire tomber, hein. C'est une compensation. C'est pour ça qu'ils expliquent d'ailleurs qu'on bouge quand même dans la pièce. C'est que tu restes pas immobile au même endroit, mais les petits trous vont constamment te ramener dans la pièce et t'empêcher de te prendre les murs, en fait. Alors, on n'en est pas encore à pouvoir courir, hein, avec ça, c'est clair. On n'en est pas encore à pouvoir sauter sur les murs, faire du skate virtuel et ce genre de choses. Et effectivement, et Patrick a raison, le virtuel, en tout cas moi, les expériences que j'ai eues d'immersion virtuelle dans un jeu ne fonctionnent qu'à partir du moment où... Enfin, elle s'arrête de fonctionner au moment où il y a quelque chose qui te sort de l'expérience. Et j'avoue que le déplacement au clavier dans un univers virtuel, c'est bizarre. D'ailleurs, je préfère les univers virtuels où tu voles. Et là, pour le coup, mais une des meilleures expériences virtuelles que j'ai eues, c'est quand j'étais dans ce grand machin où on vole, où t'es à plat ventre, et t'es comme un oiseau, tu voles. J'avais eu ça, j'avais testé ça dans un truc de, et là, pour le coup, ouais, je m'étais vraiment immergé dans le truc. Alors, oui, il y a des systèmes avec tapis roulant, mais a priori, ça, j'y crois plus sur les micro-compensations. Et un tapis roulant, c'est quand même une grosse installation chez toi. Alors que imagine des petites semelles que tu peux coller sous les chaussures, ça sera peut-être plus un produit grand public, quoi. Alors, bien évidemment, il faudra avoir un sol lisse. En gros, au lieu de faire la chambre du bébé chez vous, préparez-vous au futur. Il va falloir faire votre pièce VR. Donc, parlez-en à votre compagnon ou votre compagne, vous commencez à préparer le terrain, que la pièce de la maison qu'autrefois on réservait au bébé, mais un bébé, ça dort très bien dans une cuisine, hein, en fait, quand on y réfléchit. Et comme ça, on peut avoir sa pièce de VR, qu'on équipera avec un sol correct. Oh, salut Léopold, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Ah ben, c'est Léopold qui nous lance un raid. Coucou la communauté de Léopold. Donc voilà, c'est vraiment mon... Faut que j'en parle d'ailleurs à Marion. Il nous faut une troisième pièce vide, où on va avoir un sol lisse, des murs un peu rembourrés, parce qu'avec l'effet Bonaldi, me connaissant, je vais quand même me prendre les murs, pour se préparer à l'expérience virtuelle. Je pense qu'elle va être d'accord. Oh, tu connais ce monsieur, mais on connaît tous ce monsieur. Je vais encore finir par dormir sur le canapé si je demande ça. Oui, je pense que c'est moi qui dormirai dans la cuisine, effectivement. Oh mince, Jérôme Kenborg, ça me rajeunit pas. Ah, écoute, hein, désolé, hein, Cubertoy. Et justement, qu'est-ce que vous croyez? Je suis en train de rénover une chambre, c'est pas non plus pour y dormir, hein. En train de vitrifier le parquet, là, en ce moment. Ça roulera bien dessus pour faire la petite pièce de VR. En train de préparer le terrain. Voilà, en tout cas, pour cette petite cerise sur le gâteau. Le truc, et ça va être un débat, et je me tourne vers les gamers. Bien évidemment, ça serait excitant de pouvoir bouger dans nos jeux vidéo avec nos pieds et avoir une reproduction assez réaliste de nos mouvements. Mais jusqu'à quel point? Si on aime les jeux vidéo, c'est justement parce qu'on peut parcourir des kilomètres, faire des sauts de 5 mètres de haut, se balader avec un gun de plusieurs kilos, se prendre des bastos sans le ressentir. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire toutes les courses qu'il y a dans Call of Duty? On serait crevé au bout de quelques secondes. On l'a vu d'ailleurs, c'était un peu les limites de la Wii et tout ça. Moi, je me souviens, ces fameuses soirées, on jouait au tennis, au bowling. Ouais, c'était rigolo, mais c'était crevant, quoi. Sans parler du nombre de fois où je me prenais les murs. C'est crevant. Donc, après, il y a probablement un espace entre le sport et le jeu vidéo. Le sport ludique, où tes mouvements seraient peut-être retranscrits à l'identique, ou alors amplifiés. C'est-à-dire, une petite foulée, ça nous permettrait de courir très très vite dans un jeu vidéo, ou ce genre de choses. Il va falloir trouver, effectivement... Oui, il y avait un gilet pour ressentir les vibrations de tir, mais je peux te garantir qu'on était très très loin de l'effet kinétique d'une vraie balle, une vraie balle dans le bide. Je peux te dire que c'est pas un gilet qui va... Et encore heureux, parce que tu crèves d'abord du souffle de la balle que de la balle. Donc, il faut trouver après la bonne mesure entre qu'est-ce qu'on veut simuler, qu'est-ce qu'on veut ressentir, qu'est-ce qui sera fatigant, qu'est-ce qui sera pas fatigant. Mais je pense que là, il y a un territoire, on va dire, pour des jeux sportifs qui seront plus rigolos que de faire un footing en tournant en rond dans un stade, mais qui seront peut-être pas aussi ludiques qu'un jeu vidéo. Voilà. Et ça a déjà commencé, hein. Bon moyen pour lutter contre l'obésité chez les jeunes aussi. Bah, moi, je vois bien des jeux où tu aurais des phases, où peut-être certains skills, il faudrait les acquérir en travaillant un petit peu sur le physique, mais ça veut pas dire qu'il faudrait jouer tout le jeu dans ce mode-là. Par exemple, je sais pas, pour augmenter l'endurance de ton personnage dans un jeu de rôle, il faudrait faire une petite session de footing pour augmenter ses points d'endurance. Mais après, tu reviens à ton clavier. Tu vois, il y aurait peut-être un truc à trouver là-dedans. Pour augmenter l'intelligence de ton personnage, tu serais obligé de passer quelques heures déconnecté. Ou alors à lire des livres ou à faire tes devoirs. Et ça te permettrait d'augmenter l'intelligence de ton personnage. Il y aurait des trucs malins à faire comme ça. À la vitesse de la démo, pour l'instant, c'est pour visiter le musée du Louvre. Oui, non mais vous avez vu une démo, d'un prototype. Fait pour les Walk Simulator, il y en a de plus en plus, tout à fait. Il y a des entraîneurs de vélo en VR, c'est bien sympa. Oui, c'est là où je dis qu'il y a tout un territoire, je pense, de développement de l'activité physique dans du jeu vidéo pour que l'activité physique devienne plus ludique. Mais bien évidemment, je pense pas qu'on arrivera à des jeux d'aventure où tu dois parcourir tous les kilomètres qu'on fait dans le jeu en appuyant sur la touche Z, quoi. Voilà. Sur ce, c'est la fin de ma petite cerise sur le croissant. On va passer à la dernière rubrique de l'émission. Il est déjà 9h08, mais je vais quand même prendre quelques questions. C'est donc le moment des camps de fac. Je vous rappelle que hier est sorti notre guide d'achat de l'Apple Watch. Donc profitez-en si vous avez des questions encore sur l'Apple Watch, malgré ma vidéo. C'est peut-être le moment de les poser et c'est tout de suite dans les camps de fac. Et les cornefacs aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions à me poser? Je crois pas qu'il y ait de questions Platinium ce matin. Mais j'attends vos questions avec impatience. Il faut réinventer l'ergonomie pour que le gameplay soit cool. Pas de questions Platinium, merci Samuel de nous le confirmer. On redit un grand bonjour à la communauté de Léopold qui a fait un raid chez nous. Que penses-tu de l'iMac 2020? Bah, il est bien. Les tests les plus courts de l'histoire. Honnêtement, je ne l'ai pas testé. J'avoue que je n'ai pas regardé plus les specs comme ça parce qu'on n'est pas en période d'achat d'iMac. Mais nous, on aime plutôt. On a un iMac de quoi? De 2017, je crois. On aime bien. Lumix en webcam. Ils ont sorti aussi, Ibarhammer, un programme pour pouvoir utiliser les Lumix en webcam. Là, actuellement, c'est effectivement un GH5S avec un objectif Olympus que j'utilise pour faire mon live. Zelda Breath of the Wild, je serais extra fit avec ce système. Ah, c'est clair, si tu dois faire toutes les courses de Zelda en courant... un clavier facile à transporter, à conseiller pour iPad Pro 2012. Bah, moi, je vous donne toujours celui que j'ai toujours dans mon sac. Parce que j'utilise en fait assez rarement un clavier avec mon iPad. Donc, je vous conseille toujours... comment il s'appelle déjà ? C'est Logitech qui fait ça, c'est le Kit2Go. J'aurais bien aimé qu'ils sortent un remplaçant parce que ça commence un peu à dater. Mais c'est fin, c'est léger. Alors c'est pas du mécanique, c'est pas le meilleur clavier du monde. Mais l'avantage, c'est que je le trimballe partout dans mon sac. Il valait pas cher à une époque, mais je crois qu'ils ont remonté le prix. Mais c'est toujours ça que je conseille. Un avec trackpad, ça serait pas mal, ouais. Salut Jérôme, comptes-tu actualiser ta vidéo sur le matos pour démarrer sur YouTube avant la fin de l'année ? A priori pas avant la fin de l'année. Bonjour Jérôme. De toute façon, le fond de cette vidéo pour démarrer sur YouTube, il faut bien le comprendre. C'est que le plus important pour démarrer, la règle numéro une, c'est d'avoir une idée, déjà. Mais au niveau technique, le plus important, c'est d'avoir un bon micro, de la bonne lumière et un décor. Le reste n'est pas important. Si vous avez de la bonne lumière, un bon micro et un décor, vous pouvez très bien commencer avec un smartphone. Vous aurez une beaucoup plus belle image que quelqu'un qui a fait la connerie d'acheter une caméra super chère sans prendre un bon micro, sans prendre de light et sans réfléchir à son décor. Si vous ne me croyez pas, je vous l'ai démontré dans les vidéos moult fois. Le taux d'oxygène dans le sang des Apple Watch 6 peut-il avertir d'une apnée du sommeil ? C'est pas clair là-dessus. Certains me disent que l'oxygène dans le sang est un peu pété sur les Apple Watch et que justement, c'est pas bon pour l'apnée du sommeil. Je crois que rien ne vaut effectivement un équipement médical adapté. J'ai pas exactement l'info. Moi, ne souffrant pas d'apnée du sommeil, je l'utilise pas dans ce... Dans ce temps-là. Mais pour cet usage-là. Content du démarrage du live sur Twitch ? Ouais, c'est cool. Ça change pas énormément de choses. Hein. On est juste sur, effectivement, une autre plateforme. Ouais, vous êtes plutôt au rendez-vous, même plus que je ne l'anticipais. Je pensais qu'il n'y aurait pas plus de 100, 150 personnes à notre démarrage. Bien évidemment, on a perdu du monde parce qu'il y en a encore qui ne sont pas au courant qu'on est sur Twitch. Donc, il va falloir répéter qu'on est bien sur Twitch. Mais oui, plutôt content du démarrage. D'accord, on nous dit c'est pas suffisant pour l'apnée du sommeil. C'est pas du tout précis, il faut du matériel médical. D'accord. On râle, mais on est là. Je préfère les gens qui râlent et qui sont là que les gens qui disent rien et qui se cassent. Souvent, le signifiant other perçoit l'apnée. Le patient consulté, alors il faut faire une nuit sous surveillance médicale. D'accord, ouais, ça peut peut-être donner une indication. Par contre, ça peut peut-être effectivement, les gens qui auront un problème d'oxygène récurrent sur une Apple Watch, ça peut les inciter effectivement à consulter pour savoir s'ils n'ont pas une apnée du sommeil. Salut Polaire, passe une bonne journée. J'ai raté la fin du mug à cause d'un client. Mais ton client, tu lui dis qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que le client. Le client est roi, mais le mug est empereur. Merde. Polysoma... Mais ne mettez pas des mots comme ça le matin. Ok, mot scientifique respiratoire. Ça se vend bien en ce moment aux médecins. D'accord. Oui, d'accord avec ce que tu dis, surtout s'il n'y a pas de significant other dans le lit. C'est quoi significant other? Le problème de l'oxygénation, c'est qu'une apnée doit être très longue pour toucher l'oxygène du sang. D'accord. L'Apple Watch est-elle encore une montre? Oui, et en plus, elle va te donner le temps intelligemment. Elle va te permettre de gérer ton temps intelligemment. Mais bien évidemment, sa fonction de donner l'heure, elle est même assez centrale sur l'Apple Watch. Mais la vraie question que tu as à te poser, c'est pas est-ce que j'ai juste besoin d'une météo qui me donne l'heure? Est-ce que j'ai juste besoin d'une montre qui me donne l'heure? Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir un objet à mon bras qui me donne d'autres informations, d'autres informations d'un coup d'œil? Voilà. Significant other, anglicisme pour conjoint. D'accord, merci. Oui, WeThings fait un matériel pour détecter les apnées du sommeil. De toute façon, c'est pas parce que j'aime mon Apple Watch que j'aime pas WeThings. WeThings, ils sont beaucoup plus poussés sur le médical, je pense, que l'Apple Watch. L'Apple Watch... Et d'ailleurs, Apple ne te fait pas des fausses promesses non plus. Hein. Tout leur truc santé est bardé d'avertissements que tout ceci ne remplace pas un matériel médical certifié. Il est là finalement pour te donner des alertes qui peuvent t'inviter à aller voir ton médecin. En tout cas, très content du passage sur Twitch, surtout que l'on peut mettre en audio uniquement. Tout à fait. Tout à fait. Le live, vous pouvez le mettre en audio uniquement. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire avec YouTube. Je m'étais souvent demandé pourquoi tu restais sur YouTube et que tu passais pas sur Twitch. Maintenant que c'est fait, notamment à l'aide du Prime, avez-vous ressenti une augmentation de la contribution des viewers, sans parler de montant? Mais ça m'intéresse vraiment de savoir si Twitch permet une meilleure rétribution que YouTube. Bah, c'est une évidence que les gens de chez Twitch, surtout quand ils ont été repris par Amazon, ont créé une gamification de la contribution qui rend la contribution plus fun. Mais ce que YouTube a commencé à faire aussi avec les super chats et tout ça. Ce qui en fait pour nous est un vrai game changer, pour faire un anglicisme, c'est que les gens qui sont abonnés à Amazon Prime peuvent, sans que ça leur coûte plus cher, faire une contribution à la chaîne grâce à leur Amazon Prime. Ça, c'est vrai que ça augmente nettement tes revenus, parce que des gens qui ne seraient pas contributeurs deviennent en espèce des contributeurs gratuits. Bon, après, il faut qu'ils y pensent tous les mois, parce qu'il faut renouveler ça tous les mois. Mais ça ouvre le champ à d'autres qui ne seraient peut-être pas devenus des contributeurs en argent qu'ils auraient dû payer, mais qui veulent bien devenir contributeurs avec l'argent qu'ils donnent déjà à Amazon Prime. Oui, alors la pub, justement, on me disait hier, avant, les streamers pouvaient contrôler la pub, mais ils ont enlevé ça sur Twitch. Si je pouvais, je vous désactiverais la pub hein, sur les lives, mais je ne peux pas. Est-ce que ta watch est un réel avantage de productivité, en gros? Je suis en train d'écrire une vidéo là-dessus. Je vous dis pas quand je la tournerai, quand elle sortira, mais... Maverick, je donnerai une réponse plus précise parce que c'est... Ta question, c'est pas un outil de productivité, la watch. Mais par contre, elle me fait gagner du temps. Oui. Sauf que Twitch, il y a maintenant des pubs obligatoires pour outrepasser Ublock & Co. Et pendant ce temps-là, même si on a encore de la vidéo, les petits casteurs continuent de parler. Ouais. Alors, c'est vrai que selon la plateforme où vous lancez Twitch, Lancé sur télé avec Chromecast, vous avez zéro pub. Effectivement, selon où vous regardez Twitch, vous allez avoir plus ou moins de la pub. Nicolas, la team hôtesse a fait un petit guide comment devenir contributeur avec votre Amazon Prime. Voilà, Oleg vient de te le mettre dans la chatroom, le guide de survie sur Twitch. Voilà, voilà. Est-ce que... Allez, je prends une dernière question. Pourquoi dans le générique de rediff du mug, c'est écrit « On revient bientôt » alors qu'a priori, dans le générique de rediff du mug, « On revient bientôt ». Non, c'est écrit normalement « On arrive bientôt ». Je pense que t'as mieux. Normalement, le générique d'attente, c'est on arrive bientôt. Je vous mets pas le générique de pause qui est on revient bientôt. Idée de logiciel pour créer un programme sportif propre avec partie photo, illustration et partie texte tableau. On m'a conseillé sur Slack. Là, je pourrais pas vraiment te répondre, Douanet. Je m'y connais absolument pas du tout dans ce type de logiciel. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous quitte. Demain, c'est Guillaume qui vous fera le mug ici. Les contributeurs et d'ailleurs les gens qui subent sur Twitch, je vous retrouve demain soir pour le jeudi contributeur. Les gens qui sont sur Twitch, vous recevrez entre 5 et 6 heures du soir un mail. Donc pensez bien à activer la possibilité que je vous envoie un mail sur avec votre compte Twitch. Un mail vous donnant le lien de ce jeudi contributeur. Et ça sera demain à 18h. Donc c'est réservé à tous les contributeurs, Tipeee, YouTube Member et les subbers sur Twitch. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont sub. On remercie déjà Léopold qui nous a fait un raid. Je remercie Bonobo qui est avec son Prime. Viola Tululu avec son Prime. Parkers avec son sub de niveau 1 pour une durée d'un mois. Crestock pour son sub. Peric pour son sub. Julia pour son sub. Patrick pour son Prime. Vivi Kantek pour son Prime, Hugo Vanders pour son Prime, 3e mois, Wikileads pour son 5e mois de Prime, Panouerion pour son Prime, Exian pour son Prime. Après, on est à plus de 19h, donc j'ai dû les remercier hier. On vous fait, et je vous fais spécifiquement des gros bisous, soyez bons, soyez forts. Et moi, je vous dis à vendredi. N'oubliez pas, demain, c'est Guillaume. Ciao tout le monde.